Voilà Anne, alors nous allons partir maintenant dans les territoires occupés avec Anne de Castello. Anne, vous êtes allée à la fois à Gaza, Jéricho, Jérusalem, donc vous vous baladiez sans arrêt. C'est un très petit pays, on peut...
Minuscule, c'est ce qui frappe je crois. Quand Israël finalement c'est presque mythique. On en parle tellement de ce pays, je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'est le pays qui a le plus de correspondants étrangers au monde. Et en fait quand on arrive c'est vraiment un mouchoir de poche et tout se joue sur des, je sais pas, sur des kilomètres. Imaginez quand on parle de Gaza, enfin Gaza c'est dans l'actualité quasiment tous les jours. La bande de Gaza, bah, c'est vraiment, elle porte bien son nom, 45 kilomètres de long. Et 8 de large en bordure de Méditerranée. Je ne sais pas si vous imaginez ce fameux territoire de Gaza. Alors, à Gaza, par exemple, on n'entre pas comme ça. Et tout à l'heure, on parlait aussi de l'espèce de schizophrénie dans le pays. Je suis sûre que la plupart des Israéliens n'ont jamais même été aux abords de Gaza. Hein.
Et là, c'est la peur, donc.
Là, c'est la peur totale. Ah ben oui, puis de toute façon, on ne va pas comme cela. Il faut être attendu à Gaza. C'est-à-dire, il y a un checkpoint, bien sûr, donc avec les militaires qui sont là. On laisse sa voiture. J'avais une voiture en plaque israélienne, donc on la laisse là. Et il faut être attendu. Et on vient vous chercher à Gaza. Alors, surtout depuis l'intifada, bien sûr. Et là, m'ont attendu deux femmes, Naïda Aboudaka, la palestinienne, et Jamila Amami, qui est une Française d'origine tunisienne et qui est coordonnatrice d'enfants réfugiés du monde. Elle m'attendait avec leur vieille Subaru. On est parti à toute allure. Je vous ai parlé tout à l'heure de la circulation infernale et de la manière de conduire complètement inconsidérée, folle. Et voilà, on est parti au volant de cette Subaru. Et ça, c'était un autre monde parce qu'on quitte le milieu occidental, américanisé, totalement, presque pas, je dirais pas dépravé, mais enfin presque de Tel Aviv, par exemple, où on se croit, je sais pas moi, San Francisco. Et puis voilà, on arrive à Gaza. Ça, c'est les chemins de terre, les ânes, c'est les maisons délabrées. Et puis on parlera tout à l'heure des colons. Mais écoutons d'abord.
Alors là, on est en voiture dans les rues chaotiques et pleines de boue, puisque le système des eaux usées fonctionne très très mal. Et tu me disais, il y a quand même quelques boutiques un petit peu qui commencent à s'ouvrir. On voit un petit signe de reprise.
Bon, avant l'intifada, il y avait ça. Mais pendant l'intifada, c'est que c'était interdit de travailler avec les Israéliens. Il y a beaucoup de usines ou de fabriques qui étaient fermées parce que c'était interdit de travailler avec les Israéliens. Mais maintenant que nous allons avoir notre pays, il y aura la paix avec les Israéliens. Alors ça a commencé.
Surtout tu verras à Gaza, enfin, moi que j'ai vu qu'il n'y était pas il y a un mois, et que des petites boutiques, des petits restaurants, des cafétérias, des petits magasins. Et souvent aussi ce qu'on voit, des gens qui repeignent aussi leur boutique et tout ça, on dirait qu'il y a une vie, une renaissance, entre guillemets.
Mais aussi c'est parce qu'il y a beaucoup des employés qui n'ont pas de travail en Israël, qui sont interdits de travailler en Israël. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir des boutiques ici à Gaza pour gagner leur vie.
Parce que comme tu sais, bon, depuis la fermeture de la bande, là, depuis mars, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, il faut bien faire quelque chose, il faut bien vivre. De quoi est-ce qu'on peut vivre? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits commerces qui ouvrent comme ça. C'est surtout familial aussi, hein, où on emploie bon, le cousin, le frère et tout ça, pour essayer un peu de vivre et faire travailler l'économie. C'est micro-économique, hein, c'est pas plus.
Alors Anne, les deux femmes que vous avez rencontrées à Gaza vous ont fait découvrir comme ça vraiment tous ces changements fantastiques apparemment quand on les entend, mon Dieu, la vie s'éveille à Gaza.
Oui, ce qui est, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est absolument incroyable dans les 10 jours que j'ai vécu, c'est qu'on est toujours, c'est toujours l'imprévu. Moi, Gaza, bien sûr, il venait d'y avoir en plus des attentats. Il y en a eu juste, hein, après on a tué un colonel. Là, les Palestiniens ont tapé très très haut puisque je crois que c'est la première fois, en tout cas depuis très très longtemps, quelqu'un de si haut placé n'avait été tué. Donc, vous voyez, la situation est extrêmement tendue. Et puis, tout d'un coup, je rencontre ces deux femmes. Et tout de suite, dans la voiture, bon, là, le son n'était pas très bon, mais dans la voiture, il y a une telle on rit, voilà, on rit. Elles conduisent comme des folles. Elles me parlent de ce renouveau dont on ne parle pas non plus beaucoup. Hein, il y a une espèce de vie qui reprend.
On parle des millions qu'on va consacrer au renouveau, mais on ne parle pas de ce qui
voilà,
se fait réellement.
Voilà, on ne parle pas de ce qui fait réellement. Et puis tout d'un coup, elle me racontait aussi que le fameux 13 septembre, au volant d'une autre vieille voiture qu'elles ont pour enfants réfugiés du monde, parce que bien sûr, c'est l'organisation qui n'a pas beaucoup de sous. Donc je crois qu'elles ont repris une voiture de la Croix-Rouge qui allait être jetée. Elle est tombée en panne en plein défilé du 13 septembre, donc là où les Palestiniens criaient leur joie, défilaient dans la rue, etc. Elle est tombée en panne et tout le monde est venu la pousser. Ils ont arrêté le défilé pour la pousser. Vous voyez, ça, c'est aussi des images. Voilà, c'est ça que je dis. C'est la vie aussi, c'est le quotidien, c'est autre chose. En fait, c'est une autre dimension. Mais comme vous le disiez aussi, c'est pas très spectaculaire peut-être. Mais elle me racontait le Gaza qu'elle vivait. Et l'autre femme, Naïda Aboudaka, donc la Palestinienne, disait quand j'ai pris contact avec les gens d'enfants réfugiés du monde, avec ces femmes, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment vont-elles faire pour gérer ça, la circulation, pour se retrouver, pour ne pas être inquiétée dans la rue pour... Et puis elle m'a dit, quand j'ai vu le premier jour comment elles étaient accueillies, enfin comment on les aidait, comment on leur indiquait le chemin et tout, j'ai jamais plus eu peur pour elles. Je me suis dit de toute manière, à Gaza on se perd jamais, à Gaza il y a une espèce de solidarité aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas percevable, si vous voulez, par les images spectaculaires d'attentats et tout. Il y a toute une vie qui s'organise. Alors donc Naïda Aboudaka et Jamila Amami m'ont donc amené dans ce centre, dans cette école, les problèmes, c'est qu'il y a des enfants partout. Les enfants n'ont pas été scolarisés depuis fort longtemps et qu'ils vivent une violence au quotidien.
Est-ce que ces enfants vivent dans leur famille normalement, ou est-ce que c'est des enfants qui ont perdu leurs parents?
Non, non, ils ont souvent leur père en prison, ou leur père, il y a je ne sais combien de Palestiniens emprisonnés, au total, mais enfin c'est un assez grand nombre, donc ils sont souvent seuls, ils sont seulement avec leur mère. Et comme le disait tout à l'heure, enfin dans ce petit interview, Naïda Aboudaka, énormément d'hommes ont perdu leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller travailler en Israël, ou alors ils vont dans des conditions épouvantables, il y a des queues et des queues le matin les hommes prennent les bus à 4 ou 5 heures du matin qui les emmènent à Tel Aviv, et là ils vont vendre leur force de travail, si vous voulez, comme des journaliers. Donc ils sont des milliers et des milliers, vraiment une espèce de marée grise qui passe tous les contrôles, ça c'est absolument sinistre, et ils vont se vendre pour une journée, où certains ont des emplois plus réguliers, mais beaucoup d'hommes sont au chômage.
Donc, et ça, c'est une des rares informations qu'on a eues jusqu'ici, effectivement, où entre autres on sait que les Israéliens ont souvent utilisé la fermeture même de cette possibilité pour bloquer et fermer le développement des territoires occupés.
Oui, c'est le cas. Bon, à part que je vous dis, il y a quand même une prise en charge par les organisations internationales. Il y a beaucoup de monde. Hein, Gaza, tout le monde est là. Hein. Les voitures officielles avec Croix-Rouge, Croissant, enfin tout ça, il y en a énormément. C'est pas un pays abandonné, c'est pas une portion de territoire laissée. C'est pas l'Afrique, voilà.
Non, mais on sait quand même qu'à un certain moment donné, quand il y avait le blocus complet des territoires occupés, il devenait même difficile de s'approvisionner en nourriture dans les territoires occupés.
Tout à fait. Mais enfin, c'est pas tellement ça qui m'a frappée, parce que bon, on
ils
traverse.
Sont peut-être pas là en ce moment.
Oui, ils en sont pas là en ce moment. Il y a dans les rues, il y a de la nourriture. Enfin, c'est pas des cohortes de gens maigres, etc. C'est plutôt c'est une prison, Gaza. Enfin, c'est une prison dans laquelle se sont aussi emprisonnés des Israéliens, des Juifs israéliens, les colons, les fameux colons. Autant il y a des implantations qui sont là depuis fort longtemps, je parle en général, hein, des implantations très importantes dans des endroits qui ne sont pas stratégiques. Mais enfin, les colons qui sont venus s'installer à Gaza spécialement, eux l'ont fait volontairement. Ils ont été poussés à un certain moment. Enfin, on les a autorisés à le faire parce qu'il fallait marquer le territoire. Maintenant, ils y sont et ceux-là ne veulent plus partir. Alors là, c'est Kafka. Donc, vous passez dans les rues de Gaza. Il y a le couvre-feu d'abord, dès la tombée de la nuit, il y a le couvre-feu. les seuls endroits complètement illuminés, alors, avec des projecteurs, avec des miradors, avec des... Enfin, c'est un camp, hein, c'est le camp. C'est les colons. Ils sont entourés de barbelés. Ils sont 50 par-ci, 60 par-là. Enfin, en tout, je crois qu'ils sont 4000 sur une population de 900 000 habitants, à peu près. Ils sont 4000 au total, avec des toutes petites implantations, au milieu de Gaza, juste là où vous passez. Donc, là, ils sont protégés par l'armée. Ils sortent, ça, on en a vu à la télévision, on a vu pas mal d'images, ils sortent avec leurs voitures, les mitraillettes qui dépassent, pour aller amener leurs enfants à l'école. Enfin, ils se sont eux-mêmes emprisonnés. Et les deux femmes avec qui je faisais ce trajet me disaient, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre comme cela? Eux ne veulent pas partir. Pour l'instant, on en est là. Ils construisent des murs. Il y avait seulement les barbelés, maintenant ils se construisent des murs, donc ils s'enferment, ils se recréent un camp. Quoi,
non seulement ils ne veulent pas partir, mais ils ne veulent pas s'entendre avec les autres.
Ah non, il n'en est pas question, ce territoire est interdit. Bon, ben ça, on retombe dans les extrémistes dont on a suffisamment parlé. Là, au nom de des extrémistes, on a fait de... je ne sais plus qui a dit... à force de vouloir réaliser des prétendus droits historiques... de part et d'autre, hein. On a finalement transformé les relations internationales en un asile d'aliénés. On a transformé ce pays en asile de fous. Et là, vraiment, on met le doigt dessus. C'est des fous parmi les fous. Enfin, on ne sait plus, là. Bon, je ne sais pas très bien comment le problème va se résoudre, parce que s'ils continuent à être là, il faudra bien les protéger, parce qu'ils vont être tellement minoritaires, si Gaza... quand Gaza aura l'autonomie, que vont-ils devenir? Donc, pour l'instant, le gouvernement israélien a un sacré os là, sur lequel il bute. Et voilà, c'est les années qui ont passé, qui ont fait que des gens, des extrémistes ont pu aussi prendre, enfin s'installer là où on savait très bien que ça ferait problème à terme. Mais voilà, ça a peut-être arrangé les uns et les autres à un moment donné. Alors, je parlais de violence.
Mais vous parliez aussi de ces enfants dans cette école. C'est moi qui vous ai entraîné dans une autre voie.
Mais les deux choses sont liées, ne vous inquiétez pas. Hélas, c'est que les enfants vivent au quotidien une violence soit tout à fait ouverte, c'est-à-dire que leur père, leur frère, leur famille, enfin les membres de leur famille ont été arrêtés ou battus par des soldats israéliens. Les soldats israéliens, ils les voient tout le temps. Donc c'est tout le temps, on voit des gens en armes aussi, hein, et on se bat. Donc ils ont cette violence en eux. Ils sont battus à la maison parce que leurs pères sont au chômage, par exemple. Donc comme je crois que c'est pas un problème qui est lié seulement à ce pays-là, c'est un problème général. C'est-à-dire que dès que les hommes n'ont plus leur place, c'est la même chose dans les camps de réfugiés, eh bien, ils n'ont plus de dignité et ils se vengent d'une certaine manière sur les plus faibles. Et qui sont les plus faibles? Ce sont les femmes et les enfants. J'ai fait dernièrement un reportage sur les camps de réfugiés, c'est exactement la même chose. Les hommes n'ont plus... ont perdu le sens enfin leur virilité, si vous voulez, et donc ils développent une violence qui, bien entendu, ma foi, trouve l'exutoire là sur ce qu'ils ont sous la main, je dirais. C'est les femmes et les enfants. Et les enfants, il y en a beaucoup. Donc ils sont frappés chez eux. Ils voient les gens se frapper dans la rue, etc. Enfin, ils s'assistent quand même, peut-être, pas forcément tout le temps. Hein. C'est aussi les attentats, il n'y en a pas quand même non plus. Mais enfin, ils assistent quand même à des scènes de violence. Et ensuite, ils sont frappés à l'école. Parce que la même chose, il y a beaucoup trop d'enfants. Les écoles ont été fermées, il a fallu réorganiser tout cela. On a pensé que l'intifada, au départ, ne durerait pas. Enfin, les Palestiniens ont pensé que l'intifada ne durerait pas, que c'était quelque chose qui allait se passer en 2-3 mois. Ça fait 7 ans. Donc, y a toute une population d'enfants qui n'ont pas été scolarisés. Donc, vous voyez, il faut tout reprendre à zéro. Et alors, s'organise une espèce de... Enfin, des structures scolaires, mais les maîtres sont débordés. Les maîtres eux-mêmes, ça, ce sont les Palestiniens hein, qui me l'expliquent, ont des problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être aussi arrêtés le soir, ou ils sont dans des luttes, ou enfin bref, ils ont déjà de la difficulté à vivre et à peut-être à faire tourner, à porter l'argent au ménage, enfin bref. Donc les enfants vont à l'école en tournus. Ils sont 80 par classe et puis au bout de 3 quarts d'heure, on change, on laisse la place aux autres. Donc les maîtres, vous voyez dans quel état peut se donner une classe. Donc on bat, voilà, on bat facilement. Ils sont donc battus. Et là, j'ai eu un choc terrible parce que quand j'ai interviewé les enfants, vous voyez que tout est lié, la violence, on la retrouve à chaque coin de rue. Et qu'est-ce qu'ils voulaient être plus tard? La plupart, ils voulaient être maîtres d'école, c'est-à-dire pour pouvoir se venger, pour pouvoir faire ce qu'ils avaient subi, c'est-à-dire pour pouvoir légalement, toute impunité, frapper à leur tour.
C'est vrai. C'est triste. Mais on peut espérer quand même, et je ne sais pas si ces femmes vous en ont parlé, elles ont un espoir malgré tout par rapport à ce qu'elles sont
justement
en train de voir changer.
Mais bien
et construire.
Bien sûr. Mais elles se rendent compte que la priorité, c'est les enfants. C'est-à-dire, c'est ce temps perdu. Il faut récupérer tout ça, il faut tout reprendre en main. Sinon, ce sont des générations qui seront à nouveau violentes. Enfin voilà, on ne sort plus, c'est le cercle vicieux. Ils ont été violents quand ils étaient petits, ils ont connu la violence. Et ils seront violents quand ils seront plus grands, et on n'en sort plus. Donc, il faut. La priorité de ces femmes, c'est vraiment. Rattraper, essayer de scolariser tous ces gosses. Et puis là, j'ai fait d'autres rencontres.
Alors, on va entendre le jeune Khaled que vous avez rencontré tout de suite.
واسترشدوا بالكوكب الذهبي واسترشدوا بالكوكب الذهبي
باجي بقرا قصص وباخذ حضانة قصص وبرجعها بروح بلعب على الألعاب
Je viens ici dans la bibliothèque, je prends des livres, je lis et je prends quelques histoires à la maison pour les lire.
Comment il imagine plus tard sa vie? Ailleurs ou à Gaza avec les gens qu'il a connus?
Là, on a chauffé à l'île.
Moi, je vais vivre dans ce pays-là.
Une malade de vie, qu'est-ce que tu dis à moi maintenant?
J'étais née là, je ne vais pas sortir de là.
Il y a un souvenir qui lui fait plaisir, quelque chose qui lui a vraiment fait plaisir dans sa vie.
Les photos de mon père. Et je crois que son père était tué, c'est pour ça qu'il aime vraiment les photos de son père. Son père était tué par les masqués.
Par le Hamas?
Non, par les masqués, on ne sait pas qui s'est masqué.
Par un homme masqué?
Oui. Par des hommes masqués.
J'ai un bizarre qui a l'air Ou comme un shérif.
Il était honnête, il était assis, il a crié aux enfants de ne pas faire de choses, et pour ça qu'il était tué. Mais il dit que mon père était honnête. J'ai jeté des pierres.
Hein? Oh, qu'on a ramené avec.
Une journée de, comment on dit, de petites bombes comme ça. Ah, on l'achète dans un shaker, cette petite bombe-là.
Mais quand il fait ça, il a l'impression de faire quand même quelque chose de sérieux ou c'est un jeu ?
انا صرت هذا عشان كل الناس يحبوه مش لما هذا يجي واحد يضربني من المرضي يقول عميل
que je suis un de ces personnes palestiniennes qui fait la lutte ça veut dire et que passe le masque qui vient me dire que je travaille avec les Israéliens.
Je ne suis pas un collaborateur, je fais ça pour pas qu'on dise que je suis collaborateur.
Alors oui. Anne, ce petit Khaled, il a l'air de savoir bien comment il mène sa vie. Quel âge il a, Khaled ?
Il a 10 ans. Et je vous disais tout à l'heure, ce qu'il y a en Israël, c'est que vous, chaque fois que vous attendez une réponse, vous en avez une autre. Moi, quand il m'a dit « ce que j'aime, c'est regarder les photos de mon père », je me suis dit « bon, évidemment, son père a été tué par les Israéliens ». On voit cette guerre entre enfants et adultes, ces enfants qui lancent des pierres. Enfin, c'est ce que la télévision nous déverse tout le temps. Donc, cette espèce de violence entre ces générations. Et puis, je croyais qu'il allait me dire ça. Et il a parlé des masqués. Donc, son père a été tué par les gens du Hamas. Et si lui jette des pierres, c'est-à-dire si lui, peut-être, est un de ceux qu'on voit jetant des pierres, c'est parce qu'il ne veut surtout pas passer pour un collaborateur. Vous imaginez
à 10 ans, devoir construire sa vie de cette façon-là, avec
avec cette peur.
Ouais.
Parce que bon, ça c'est aussi quelque chose dont les Palestiniens parlent peu, les Israéliens en parlent beaucoup dans leurs journaux, c'est aussi qu'il y a une pression faite par les extrémistes qui est extrêmement forte. Il y a beaucoup de règlements de compte parmi eux, parfois les enfants en sont les victimes, c'est-à-dire que on laisse pas le choix aux familles, il faut être d'un côté ou de l'autre. Et en ce moment, les choses se sont, enfin en tout cas ces derniers temps, les choses s'étaient durcies. Donc son père, probablement, à ce petit Ramed, disait simplement aux enfants de ne pas lancer des pierres, si ça se trouve pas plus que cela. Et il a été tué. Donc il a d'autres réalités, Khaled. Hein. Et lui, Khaled, il m'a marqué parce que, alors que je vous le disais, les autres voulaient être maîtres pour pouvoir aussi pouvoir assouvir leur désir de violence ou tout à fait légitime, lui veut être docteur. Donc il a déjà fait un autre chemin. Et il veut venir là, il veut venir au centre, il prend des livres, il sent que il veut sortir de là. Tout en, vous l'avez entendu, restant dans ce pays est le sien, c'est ce qu'il a connu, il veut rester là. Donc chacun, toujours dans ce pays, chacun a une notion du territoire qui est viscérale. Enfin, chacun estime que le bout là, qui sur lequel il est, le sien. Je vous parlais tout à l'heure, malheureusement, du drame de ces colons juifs qui aussi se sont implantés là et qui vont devoir, par la force des choses, partir. Alors, à quel prix, ça, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, de toute façon, on sait parfaitement qu'un jour, si ça continue comme ça, peut-être l'armée israélienne sera obligée de tirer sur les juifs. Enfin, sur ces femmes. Et de l'autre côté aussi, il y a des règlements de compte. C'est-à-dire que de côté comme de l'autre, il y a ces extrémistes qui mettent tout en péril et dont il va falloir peut-être se débarrasser au prix du sang, certainement.
Vous avez vécu, Anne de Castello, une ultime rencontre le soir de la nuit de Noël, puisque c'était un des derniers mandats qu'on vous avait confié en tant que journaliste de la radio Suisse romande. Toute l'équipe, hein, je crois, aussi
voilà,
bien
oui,
ceux
oui.
de la première que de la deux, là, tout le monde se retrouve pour passer la nuit de Noël à Jéricho avec une rencontre entre, justement, de nouveau, Israéliens, Palestiniens.
Oui, oui, ça c'était une idée de la radio Suisse romande, la première, de l'animation de la première, qui tenait absolument à faire se rencontrer un juif, un colon juif et un palestinien, à leur faire se serrer la main, c'est-à-dire reconstituer le geste fameux, le geste historique, mais à Jéricho.
Alors, vous n'avez pas l'air très convaincu. Hein.
Non, mais parce qu'au départ, on était très en... quand on a vu comment les choses se passaient, c'est-à-dire que la paix, ma foi, pendant... on en reparle un petit peu maintenant, mais elle a quand même été un petit peu... Elle a été en sourdine hein, pendant quelques temps. Il y a plutôt eu des attentats, une recrudescence d'attentats, donc on s'est dit, on va à l'échec.
C'est un geste artificiel, ça vous semble artificiel?
Oui, c'était un petit peu, oui. Et puis ça s'est passé. Vous voyez, donc il faut quand même la volonté de. Il faut que des gens désirent ça, j'ai l'impression.
Même quand c'est des gens qui viennent d'ailleurs de
Oui,
Suisse.
Quand c'est des gens. Parce que quand moi, je disais, quand je préparais mes émissions et que je téléphonais un peu à droite et à gauche, et je disais, vous savez, on sera à Jéricho le soir de Noël. Comment, vous ne serez pas à Bethléem? Non, on sera à Jéricho. Parce que le soir de Noël, le 24, pour Palestiniens et pour Israéliens, ça ne veut rien dire. Hein. C'est une date. Ça n'a aucune signification.
Chrétiens.
Voilà, exactement, c'est chrétien. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bon, on veut faire ça. Mais vous. Alors là, c'était l'anéantissement. Mais ils sont complètement fous. Et puis on était sur une terrasse à Jéricho et puis la chose a failli capoter parce que on nous a d'abord lancé des pierres quand on est arrivé. Quand le colon est arrivé, on a reçu des pierres, un jet de pierres. Donc ça a un petit peu refroidi tout le monde. Et puis ces gens-là vous rassurent pas. Et il y a de quoi, puisque vivent une autre réalité que vous. Vous arrivez avec vos idées, vous vous dites il faut que ça joue, il faut que ça marche. On a tout organisé pour. Mais il y a l'imprévu. Les pierres, oui, on ne s'attendait peut-être pas à cet accueil. Et puis le colon nous a dit, mais tout peut arriver. Ça, l'attentat peut d'une minute à l'autre. Enfin, je suis une cible ambulante.
Et vous, en tant que journaliste, ça ne vous posait pas de problème, ça, de créer cette situation
difficile. On ne la crée pas parce qu'il est colon. Il va chercher. Plus personne ne veut aller à Jéricho chercher les ouvriers palestiniens qui travaillent pour lui, ses employés. Donc c'est lui qui se déplace, qui va, qui vient. Il est connu. Il s'appelle Paul Duncan. C'est un type exceptionnel. C'est un ancien communiste avec des idées de tolérance qui sont ancrées en lui. C'est-à-dire que pour lui, il est arrivé, il a dit avant de commencer, avant de parler, je veux embrasser mon ami palestinien et à la mode arabe, c'est-à-dire quatre fois. Deux fois et deux. Et là, je dois dire que même ceux qui n'y croyaient pas, même ceux qui avaient une crainte un peu de cette soirée, même le chauffeur de taxi, le chauffeur de car israélien, qu'on avait tiré là, parce que bon, je passe les détails, mais il y a un groupe vocal suisse qui est venu aussi chanter pour nous, quelques-uns du groupe qui sont venus, qui se trouvaient en tournée, qui sont venus pour nous et qui ont failli ne pas venir parce que tout d'un coup ils ont réalisé que c'était très dangereux, que tout pouvait arriver. Et bien là, il y a eu un moment vraiment de... Je sais pas, tous les gens avaient les larmes aux yeux, je crois. Tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est possible, ces deux hommes le veulent. Et le Palestinien lui a dit, mais tu sais bien, Paul, que ici tout le monde t'aime, si tu veux, tu peux rester. Il a dit, non, mais je pourrais pas, parce que moi je suis juif, je veux être avec mes. Je veux vivre en terre juive, pas sous gouvernement palestinien, donc probablement je partirai. Mais il a une immense exploitation, il fait travailler du monde, enfin, ils s'entendent tous. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, un extrémiste peut venir d'un côté et de l'autre et mettre en péril tout cela. Mais ça fait rien. Ces hommes-là ont décidé qu'ils s'entendraient. Et tout peut arriver. Là, ça ne changera rien à leur état d'esprit. Donc, si vous voulez, autant il y a des extrémistes qui... On ne peut rien faire contre eux. Hein, ils sont dans leurs petites œillères. Ils ont leurs œillères. On ne pourra rien faire. Mais il y a aussi les autres qui sont des inconditionnels de la paix. Et ce soir-là, on en a eu une preuve.
Et la dernière poignée de main que vous avez sûrement échangée, vous, Anne de Castello, en partant, en quittant les territoires occupés ou Israël, pour vous, qu'est-ce qu'elle a signifié? Parce que vous aviez été quelqu'un de l'extérieur, journaliste qui a le pouvoir de faire savoir à l'extérieur ce qui se passe, et vous en étiez consciente, puisque vous vouliez enfin donner la parole à des gens à qui on la donne jamais,
oui.
Ou rarement. Qu'est-ce qu'elle a signifié pour vous, cette dernière poignée de main?
Il n'y a pas eu de dernière poignée de main. Non, il n'y a pas eu de dernière poignée de main, parce que je crois que moi aussi, j'ai tissé des liens. J'en ai tissé aussi même par les auditeurs qui ont écouté les émissions et qui y a une femme qui de Berne m'a écrit en me disant que ça avait été que les émissions que ce qu'elle avait entendu avait été pour elle comme un espèce de merveilleux Noël. Alors vous voyez, les poignées de main, elles se continuent comme une chaîne un peu. On ne peut pas faire pas tomber dans le
non, mais des fois il y a des images qui parlent bien
dans la mièvrerie, mais pourquoi ne parler aussi toujours que de choses violentes? Il y a tout cela, il y a tout ce quotidien dont je vous parlais qui est peut-être beaucoup plus accessible ou dont la dimension est différente, différemment perçue par les femmes. Peut-être je reviens à cela, parce que c'est quand même avec elle qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses. Même si avec Joseph Al-Ghazi, avec Barnavi, enfin il y avait un tas d'autres interlocuteurs que j'ai rencontrés, avec Sigilman, avec tous ces gens. On était tous sur la même longueur d'onde, avec Paul Duncan. Quand on se parle, tout d'un coup, on se dit mais bon sang, il y a une autre dimension. Enfin, ce sont des gens qui réfléchissent différemment, qui ont dépassé le côté immédiat, enfin, de la haine normale. Chacun dans tous les camps a eu des parents, des enfants touchés, des frères et sœurs. Enfin, chacun peut brandir une vengeance. Et puis, il y en a d'autres qui vont au-delà. Moi, je ne sais pas, c'est des gens qui me sidèrent parce qu'ils ont une telle force de spirituelle, une force de tolérance qui, que je n'ai peut-être pas moi-même dans ma vie quotidienne et que j'ai appris là-bas.
En tout cas, pour nous, dans Remue Ménage, c'est votre choix journalistique qui nous a intéressés. Pour nous, c'était une chose très importante. Le choix que vous avez fait, il ressemble un peu au nôtre. Si on avait les moyens, en tant que radiozone, de pouvoir aller se balader dans ces zones-là, on le ferait. Et en tout cas, merci de nous avoir fait partager par votre regard tout ce que vous avez vu dans cette région du monde. Et peut-être à une autre fois.
Merci. Merci. Voilà pour aujourd'hui, Remue Ménage, c'est terminé. Nous quittons la